Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission spéciale réalisée par les CM2 de l'école Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un anniversaire très important, les 400 ans de la Marine nationale célébrés à Port-Luneau à la Flèche. Mais nous avons aussi une surprise pour toute la classe, des invités très spéciaux et avec nous aujourd'hui, messieurs Christophe Libert et Gilles Radet, anciens marins. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous.
Bonjour les enfants et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, même s'il fait très chaud.
Merci de votre accueil et puis on vous écoute.
Messieurs, pouvez-vous vous présenter ?
Eh bien je suis Christophe Libert, je suis le maire de La Fontaine-Saint-Martin. Et il y a très très longtemps, il y a 40 ans, au mois de septembre 1986, je rentrais dans la Marine nationale.
Moi je m'appelle Gilles Radet, j'ai pas 40 ans, j'ai beaucoup plus. Je viens de Soissons, vous voyez, je viens de loin pour venir vous voir. Soissons c'est dans l'Aisne, c'est au-dessus de Paris. Il n'y a pas la mer. Hein.
Quel était votre métier exactement dans la marine ?
Alors je suis rentré dans la marine pour continuer mes études, donc j'ai continué mes études pour faire une première. J'ai pas réussi à aller à la terminale, donc après il a fallu que je choisisse une spécialité, donc j'avais le choix entre trois spécialités. Soit mécanicien du service général, soit mécanicien avion, ou alors soit pompier chez les marins. Donc j'ai décidé d'embrasser une carrière de mécanicien avion avant de devenir mécanicien de bord dans les avions.
Depuis quand rêviez-vous de devenir marin?
Alors depuis tout petit, on dit c'est ça. En fait, alors au début c'était pas marin, j'avais plein d'avions, je faisais plein de maquettes d'avions. Donc j'avais plein de maquettes d'avions dans ma chambre qui étaient au plafond. Et ma maman s'est mariée avec Gilles à un moment et Gilles a été marin et me racontait toujours des histoires sur sa carrière, ce qu'il avait fait, il avait été sur le porte-avions, qu'il avait fait mécanicien à volant. Donc un jour je me suis dit tiens pourquoi pas aller faire le tour du monde et apprendre un métier. Donc c'est venu comme ça en fait, c'est grâce à Gilles qui est à côté de moi.
Ben moi je suis rentré dans la marine contrairement à Christophe, je suis rentré après le bac. Et étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de voies pour continuer, ben je me suis décidé grâce à un copain qui était là, qui venait également de la marine, à vouloir embrasser la carrière dans la marine. Et moi j'ai fait l'école de Rochefort comme électromécanicien aéronautique, et ensuite j'ai fait également l'école du personnel volant pour devenir volant. Voilà, donc on a fait à peu près la même chose.
Pourquoi aviez-vous choisi ce métier ?
Principalement pour voyager, je voulais faire le tour du monde, découvrir des pays. Je me suis dit que la marine c'était la meilleure arme pour découvrir tous ces pays-là. Puis bien sûr avoir un métier que j'étais pas littéraire, j'étais très mauvais en français, j'étais bon en maths et en physique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire de la mécanique et j'ai décidé la mécanique de réparer les avions en fait.
Eh bien moi j'ai fait ce métier parce que déjà un peu de la même façon, parce qu'on a envie de faire un peu puis la vie de marin me plaisait. Et on a envie aussi de voyager. Et puis bon, surtout au niveau technique, les avions m'intéressaient. Et quand je suis parti, je voulais absolument faire, moi, l'aéronautique. Et absolument ce métier, pas un autre, dans la marine. Donc j'ai choisi directement, moi, l'aéronautique.
Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'études pour devenir marin?
Alors ça dépend. On peut rentrer dans la marine sans le bac aujourd'hui, ou on peut rentrer avec le bac, ou bac plus 2, ou bac plus 3. En fait, la marine accueille tous les niveaux scolaires, suivant la carrière qu'on veut faire plus tard. Soit on veut faire marin, après sous-off ou officier, on peut rentrer sans le bac, avec le bac, et puis on peut évoluer tout au long de sa carrière.
Quel âge aviez-vous quand vous êtes parti en mer pour la première fois ?
Alors moi je suis sorti de l'école des mécaniciens à 18 ans, j'ai été affecté sur une flottille de chasse embarquée, les Crusaders, et à 18 ans je faisais mes premiers séjours sur le porte-avions, alors je sais plus si c'était le Clémenceau ou le Foch. Donc pendant 4 ans j'ai navigué sur le porte-avions et le Foch pour réparer les avions de chasse embarqués.
Ben, moi, je suis rentré de la marine, j'avais 17 ans. Après, ben, il y a l'école, bien entendu, il faut aller à l'école le plus possible. Et comme toujours, hein, le plus possible, que ce soit dans le civil ou dans la marine ou dans l'armée, il faut aller le plus loin possible. Et après, j'ai fait mon premier embarquement, je devais avoir un peu plus de 18 ans. Et dans la même flottille, avec les mêmes avions que Christophe. Sur le porte-avions, moi, c'était le Foch. Ça, je me rappelle.
Est-ce que votre famille était contente de votre choix ?
On pourrait demander à ma maman, parce qu'elle est là, à côté de vous. Je me souviens, quand je suis parti sur le quai, qu'elle pleurait, donc je pense qu'elle était un peu triste. Après, c'était un choix, hein, de ma part, donc... S'il faut accepter le choix des enfants, hein, de leur carrière, je pense que c'est compliqué de voir ces enfants partir loin. Hein. Je vivais à Soissons, dans l'Aisne, donc je partais à Toulon, à l'autre bout du monde, de l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet. Donc quand on appelait la famille, c'était une fois par semaine dans une cabine téléphonique. Donc oui, c'est très très difficile, surtout à 16 ans. Hein. J'étais très jeune quand je suis parti.
Comment avez-vous réagi quand Christophe allait être marin ?
Au début, j'étais assez fière, mais après, j'avoue que j'étais un petit peu angoissée, parce que Soissons-Toulon, ça fait un petit peu plus de 1000 km, et c'était la première grande séparation de la maman avec le grand garçon. Donc il y a eu des larmes, et puis 3 mois sans le voir, hein, parce qu'il y avait les classes, donc pas de possibilité de rentrer à la maison. Oui, on y est allé, effectivement. Donc la première fois, au bout de 3 mois, on est descendu à Toulon parce que c'était le 50e anniversaire de l'école de Saint-Mandrier. Donc on a eu la possibilité d'aller voir son école et de participer, de voir un petit peu ce qu'il faisait. Et à cette époque-là, il faisait partie de la musique de l'école. Et donc il jouait de la bombarde, c'est ça, hein.
Comment avez-vous réagi ?
Oh, moi, j'étais content. Hein. J'étais content, malgré tout, comme maman. On a un petit peu quand même de... Il était très jeune quand même pour partir. Mais moi, j'étais content parce que pour moi, c'était une belle carrière. C'était la preuve, c'est qu'il a fait une belle carrière.
Est-ce que vous avez donné envie à Christophe de rentrer dans la marine ?
Non, je n'ai jamais réellement demandé de rentrer à la marine. C'est venu par rapport aux discussions qu'on avait ensemble. Et puis que moi, j'en parlais souvent, bien entendu. Et puis lui, bon, ça va, mais en aucun cas, j'ai été le déclencheur direct, malgré tout, de son départ. Un petit peu, quand même, je pense. Mais ce n'était pas une volonté ferme de ma part. Je ne l'aurais pas obligé, par contre. Hein.
Alors, je dis... Il avait offert à Christophe un très très grand poster, un immense poster du porte-avions Foch qu'il avait au-dessus de son bureau. Donc je pense que l'influence, elle était un peu là quand même. Mais bon, j'en suis très très fière. Moi, je suis fière de mon fils, hein. Franchement. Enfin, mes fils, parce qu'il y en a plusieurs, mais bon, de Christophe, je suis vraiment fière de tout ce qu'il a fait.
Bah, mon cerveau, il commence à ramollir aussi, donc je me souviens plus trop. Hein, mais...
Bravo.
À quoi ressemble une journée normale sur un bateau ?
En fait, on travaille par quart. Donc normalement, c'est on relève toutes les 4 heures. Les gens du service général, on les appelle comme ça, travaillent toutes les 4 heures. Donc ils vont travailler de minuit à 4 heures, de 4 heures et ainsi de suite. Nous, dans l'aéro, on faisait deux journées totalement différentes. En fait, on pouvait travailler la première journée, on faisait 18 heures. Midi 18h, et après le reste du temps on se reposait et on rattaquait à minuit. Donc suivant si les avions volaient, on passait beaucoup de temps sur le pont ou à réparer les avions. Donc on passe beaucoup de temps à travailler. On a une journée où c'est un peu plus tranquille, mais sinon on a une très grosse journée après une journée plus tranquille.
Est-ce qu'il y a plusieurs métiers différents dans la marine ?
Alors dans la marine, il y a 80 métiers. Donc tous les métiers sont possibles dans la marine nationale. Ça va du mécanicien, de l'électricien, du cuisinier, du maître d'hôtel. Qu'est-ce qu'on a ? On a des charpentiers. On a vraiment tous les métiers. Les métiers qu'on va pas retrouver dans la marine nationale, c'est bijoutier par exemple, ou alors quelqu'un qui a fait une école de commerce. Nous, on n'a rien à vendre. Donc il y a énormément de métiers dans la marine nationale. Des secrétaires, enfin plein de métiers.
Et ces métiers sont, à bien dire que ces métiers sont classés pour l'importance, pour un jour pour vous, s'il y en a qui veut venir, sont classés par degré. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré. C'est-à-dire, ça correspond à notre niveau d'études à la rentrée dans la marine. Et il y a des spécialités qu'on ne peut pas accéder si on n'a pas un certain niveau dans le civil. Hein, le premier groupe, c'est généralement les pilotes, les navigateurs, et les groupes qui sont un peu à part, les contrôleurs aériens, des choses comme ça. Et après, jusqu'au dernier groupe, ou alors, on a des gens qui font manœuvrier, qui font, c'est-à-dire qui font la manœuvre, puis il y a des gens qui viennent pour être cuisiniers, pour des choses comme ça. Mais il y a différents groupes. Alors, selon ce qu'on veut faire, un métier qu'on a envie de faire, il faut essayer de viser le plus haut possible dans ses études civiles pour pouvoir accéder à ce qu'on veut faire. Ou alors, on vient tout simplement pour être fusilier marin, où déjà, ça ne demande pas une grande étude, mais ça demande d'autres qualités, par contre, parce que là, il faut être sportif, c'est un métier bien spécial. Comme les manœuvriers, c'est des métiers qui sont très durs. Mais ils finissent par avoir le même salaire qu'un marin, que n'importe quel marin, et il n'y a pas de différence entre nous. Quand on a le même grade, on a la même paye.
Comment fait-on pour apprendre à travailler sur un bateau?
En fait, on a des écoles de spécialité, donc on a, ça va de 6 mois à 1 an, donc pendant 1 an ou 6 mois, on nous forme pour un métier. Donc moi, pour être mécanicien avion, j'ai fait 1 an de formation à Rochefort. Après, j'ai fait encore 1 an de formation à Nîmes pour devenir mécanicien navigant. Tous nos métiers, on est formé par d'autres marins, en fait, comme vous à l'école, hein. Et après, on part en mer une fois qu'on est formé.
Comment est la vie sur un bateau?
Eh ben, la vie sur un bateau, en fait, c'est un peu comme dans une grosse usine, sauf qu'on est en mer et qu'on va pas pouvoir rentrer chez nous le soir. Donc, en fait, on travaille suivant nos horaires qu'on nous a donnés avant. Après, on va manger au self aussi, le midi et le soir. Donc, on nous prépare à manger. Donc, la spécificité de la marine, c'est que nous, on mange pas de ration de combat. On nous fait toujours à manger. Le matin, il y a du pain frais, même des croissants assez souvent. On mange très bien dans la marine. Après, on a aussi des secrétaires qui vont s'occuper de nos salaires, qui vont s'occuper de nos documents administratifs. Donc, en fait, sur un porte-avions, c'est une grosse ville où on va retrouver un peu comme ici. Il y a même un petit supermarché pour aller acheter des bonbons, pour aller acheter des choses qu'on a besoin, pour se nettoyer, du savon, des choses comme ça. On a un petit supermarché, puis un petit endroit pour se reposer, boire des jus d'orange, des choses comme ça. Et après, on a nos chambres, ou alors les chambres sont assez exiguës pour dormir, mais avec un petit placard, mais on s'y fait, c'est une habitude.
Non, c'est clair. Il y a une petite différence avec... sauf les services aéros qui, nous, avons eu l'avantage de pouvoir aller à l'air libre. Regardez, ça, c'est important. Parce que nous, on peut aller sur le pont d'envol, on peut aller sur les trucs extérieurs, on a le droit d'y aller. Par contre, les services bord, qui sont les services mécaniciens, etc., eux restent toujours et ne voient pas le jour. C'est pareil qu'un sous-marin, en fin de compte. Hein. À la différence, pour savoir s'il fait jour ou nuit, la lumière est blanche ou rouge. Et ça suit exactement le calendrier lunaire. C'est-à-dire, comme c'est le calendrier, on sait qu'il fait nuit à 18h, qu'il fait jour à 6h du matin, et là, ça change. Alors, par contre, il faut se retrouver. On apprend ça quand on arrive dans la marine, on apprend à se retrouver sur un bateau. Parce que sur un porte-avions, pour se retrouver, il faut savoir, il y a tout un tas de lettrages et de numérotations qui nous permettent de dire si on est en haut, si on est en bas, si on est à gauche, si on est à droite, si on est devant, si on est derrière. Parce que c'est énorme. Alors, le plaisir de chacun quand on arrive la première fois, Christophe a dû y avoir droit aussi. C'est qu'il y a les petits copains qui nous emmènent faire un tour et ils nous sèment dans les coursives. Parce que ça s'appelle des coursives sur un bateau. Ça ne s'appelle pas des couloirs, c'est des coursives. Hein. Et on se retrouve, je peux vous dire qu'on cherche un moment sur un bateau. Hein.
Ça fait un peu comme votre couloir là pour arriver, sauf que des couloirs, il y en a des multitudes et puis il y a des ponts différents. Donc des fois, on se perd.
On apprend, quand on est en formation maritime, on apprend à reconnaître A0430. Ça, c'était mon numéro de chambre sur le porte-avions. Je crois que ça doit être le même. Ouais. À l'avant, c'est à l'avant. C'est au dernier pont. Et 430, c'est le numéro. Et là, quand on est quelque part, il faut qu'on cherche le A, le B, le C, le 0 qui correspond. Et puis, il faut se retrouver. Et là, au départ, c'est... Généralement, on fait toujours le même trajet. Hein, parce qu'on ne va pas ailleurs. Et on n'a pas à aller ailleurs, d'ailleurs. Ah bah, savoir qu'il y a, il y a de quoi boire, nous on n'avait pas à quoi boire. Maintenant, c'est les plus jeunes, ils ont eu à boire, ils ont eu un foyer, nous on n'avait pas, ça n'existait pas. Par contre, une généralité, sur un porte-avions, il n'y a pas d'alcool. Si, le vin, qu'on appelle le cambuzard sur un bateau.
Dormez-vous dans des petites cabines?
En fait, c'est des postes, on appelle ça des postes, et on va dire que c'est dans une chambre, enfin, c'est, les chambres sont un peu comme la salle de classe, et on va avoir des couchettes les unes sur les autres, et on va être, on était 60, dans une pièce comme la, comme votre classe, donc on était, c'était assez exigu, mais en fait, on se croise pas beaucoup, parce qu'en fait, quand il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui se reposent, il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui se reposent. Donc, on se rend pas compte que c'est petit, mais c'est très, très petit. Et le lit n'est pas large.
Combien de personnes vivaient avec vous sur le bateau?
Donc sur le porte-avions, à l'époque et encore aujourd'hui, hein, le Foch et Clémenceau, il y avait 2000 marins. Sur le Charles de Gaulle, il y a aussi 2000 marins. La petite différence avec mon époque, c'est que le bâtiment était très peu féminisé. La dernière mission que j'ai fait en 92, il y avait deux personnels féminins, et, mais le reste, c'était que des hommes. Aujourd'hui, c'est, les bâtiments sont mixtes. Dans la marine nationale, la féminisation, c'est 20% de personnel. Donc, on a 20% de femmes sur les bâtiments. Après, dans l'avion, on était 14 dans l'avion. Donc, quand on partait en mission, partout dans le monde, on partait à 14 avec 5 techniciens. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, on mange très bien. Mais à l'époque, j'étais tout maigre, donc c'était pas grave. Mais j'ai toujours très, très bien mangé dans la marine nationale.
Qui prépare les repas sur le navire?
Eh bien, on a des cuisiniers. Il y a des spécialistes dans la, comme je disais tout à l'heure, il y a 80 métiers. On a des cuisiniers, on a des pâtissiers, on a des boulangers. Donc, c'est une spécialité dans la marine nationale. Donc, on emmène nos propres cuisiniers et c'est eux qui préparent à manger pour tout le personnel du bateau. Donc, ils font à manger pour 2000 personnes. Donc, c'est une très grosse cantine.
Est-ce qu'on peut tomber malade en mer?
Ah ben, ça peut arriver, hein. Ça arrive souvent en escale, hein. Quand on a passé quelques jours en mer, on arrive en escale, on va manger une nourriture différente, là on tombe malade. Puis après on peut aussi être malade par mauvaise mer ou quand il y a des gens qui ont le mal de mer, donc eux ils sont malades tout le temps. Bon, il y en a très peu, ils arrêtent, si on a le mal de mer, on fait pas une carrière dans la marine. On cherche après un poste à terre. Mais ça peut, on peut tomber malade. Il y a une infirmerie avec des médecins, il y a une table d'opération. Si on se blesse en travaillant, on est pris en charge tout de suite. En fait, il y a sur le porte-avions, il y a un petit hôpital, il y a un dentiste, il y a un ophtalmo, il y a tout ce qu'il faut au cas où on se blesse.
Et les infirmiers sont formés également. On peut rentrer pour être infirmier, Donc la formation, mais dans la marine également, il y a une formation d'infirmier complète. Les médecins, c'est un peu différent. Il y a une école, quoi, qu'il y a une école de...
Non, maintenant, ils sont tous... En fait, il n'y a plus qu'une seule école où on forme tout le monde.
Ouais.
À Lyon.
À Lyon, ouais.
Aviez-vous parfois peur pendant les tempêtes?
Alors, j'ai pas eu beaucoup de tempêtes. J'ai eu une tempête que je me souviendrai jusqu'à la fin. C'est au large du golfe de Gascogne, mais apparemment, c'était souvent ça. Donc là, oui, j'ai dormi accroché à mon lit. Sur les lits, moi, j'étais... En fait, quand on est... Au début, on se fait avoir, on est en bas, donc c'est pas terrible pour dormir. Donc après, quand on est plus ancien, on a toujours les bannettes. On a un lit, ça s'appelle une bannette en termes marines. Donc en fait, la bannette du haut, elle a une barre où on peut se tenir la nuit. Donc je me souviens avoir dormi accroché à la barre tellement ça bougeait, quoi. Mais ça bougeait fort. Les avions décollent pas quand c'est comme ça. Et on reste au lit, on joue aux cartes, on attend que la tempête passe.
Quel est le plus gros bateau sur lequel vous avez travaillé?
Ben moi, c'est facile. J'ai navigué que sur les porte-avions. Donc, le plus gros bâtiment de la Marine nationale, c'est le porte-avions. Donc, à l'époque, le Clémenceau et le Foch. Et aujourd'hui, le plus gros bateau, c'est le Charles de Gaulle. Et on a aussi des porte-hélicoptères qui sont assez impressionnants aussi. Beaucoup plus petits, mais c'est des bâtiments assez gros. Et on a aussi des nouveaux ravitailleurs qui sont arrivés il y a un ou deux ans et qui sont très, très, très gros aussi.
Non, le plus gros bateau, moi, que j'ai pu aller, c'est pas seulement, j'en ai fait que deux, puisque l'aéronaval, on va que sur, non pas aller sur la Romanche aussi, mais pas sur le Jeanne d'Arc. Mais moi, j'ai fait le porte-avions Clémenceau et le Foch, qui étaient les deux plus gros bateaux, qui étaient en mer à l'époque, hein. Ils sont toujours, d'ailleurs, sur les porte-avions les plus gros.
Comment faites-vous pour repérer au milieu de l'océan?
En fait, c'est comme la voiture, il y a des GPS. Donc ça, c'est la facilité. Hein. Si demain, il n'y a plus de... Les GPS tombent en panne, en fait, on se repère avec les étoiles. Donc, comme dans le temps, au temps de Christophe Colomb, en fait, on a un sextant, c'est un appareil pour se repérer, on va se repérer avec les étoiles. Si on n'avait plus d'électricité ou de GPS, enfin, si les satellites ne fonctionnaient plus, on peut toujours se repérer en mer.
Par contre, ça, c'est pour les gens qui sont à la navigation. Nous-mêmes, sur le porte-avions, d'ailleurs, c'est voulu, on ne sait pas où on est. De temps en temps, on voit les côtes le soir, on voit de la lumière, alors on sait à peu près où on peut se trouver selon si c'est en Méditerranée, c'est assez facile, donc on arrive à déduire un peu où on est, mais honnêtement, sur le porte-avions, une fois qu'on est parti, et on n'a pas à le savoir où on est, de toute façon, ça c'est secret défense. On va faire comme un petit gars de l'école navale a fait, et puis faire marcher sa montre ou je ne sais quoi, pour se faire repérer. Et donc, nous, on n'a pas à le savoir, on n'a pas à le demander, on ne sait jamais où on a été. On peut le deviner, mais on ne sait pas.
C'était juste pour dire, à part les étoiles,
vous utilisez des cartes. Ah oui, bien sûr. En fait, il y a des cartes, mais tu peux utiliser une carte, mais si tu n'arrives pas à savoir à quel endroit tu te trouves, la carte ne servirait pas à grand-chose. Donc, il faut s'aider des étoiles. Il y a des navigateurs qui calculent.
Mais nous, c'est encore une des spécialités de la marine. Comme quoi, il y en a 80, il y en a plein de spécialités dans la marine. Hein.
Est-ce qu'il y avait Internet ou le téléphone sur votre bateau ?
À l'époque, non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils ont Internet, donc ils peuvent envoyer des mails. Le téléphone fonctionne quand ils se rapprochent des côtes, mais en pleine mer, les téléphones ne servent à rien. Il faut surtout pas s'en servir. Ça, c'est une source pour se faire repérer. À l'époque, nous, on attendait le courrier. En fait, on écrivait des lettres et les hélicoptères amenaient des sacs de courrier. Donc là, quand on était en mer, on attendait qu'une chose, c'est que le courrier arrive.
Quand on voyait les gros sacs descendre de l'hélico, on se disait peut-être qu'on va avoir un truc, on va avoir une lettre. Et nos parents, c'est pareil, nos amis, c'est pareil, ils attendaient 15 jours pour avoir une lettre. Hein. Et c'est pas la première chose qu'on doit faire sur le bateau. Hein.